Dans une semaine, on va vivre ce week-end dont on a parlé plusieurs fois. Ce week-end où, avec les pasteurs des églises évangéliques à La Chaux-de-Fonds, on a décidé de le dédier à dénoncer cette injustice qui a lieu dans notre monde et qui est de plus en plus médiatisée d'ailleurs, qui est le trafic humain, qui est la traite des êtres humains, l'esclavage moderne. Il n'y a plus, a priori, d'esclavage dans notre monde en tant qu'un modèle économique, planétaire, mais l'esclavage, il y en a toujours au travers de ces situations. Et en tant qu'Église, notre mission, c'est aussi de dénoncer l'œuvre du péché pour proclamer Christ. Pour proclamer Christ face à cela et face à l'esclavage, proclamer la liberté qu'on a en Christ. Et c'est important de se pencher sur ce phénomène qui peut-être ne touche pas forcément la Suisse comme ça touche d'autres pays. On était peut-être moins concernés par beaucoup de situations comme ça. Mais si, en fait, on est concernés, puis en particulier en tant que chrétien, on est concernés. En tant qu'Église, on est concernés. Et pourquoi on est concernés? Parce que finalement, ce trafic humain, c'est l'expression contraire d'un principe de vie de Dieu. C'est l'expression contraire, c'est quelque chose qui bafoue en fait une vérité biblique, une loi spirituelle qui est de veiller sur le plus faible, de veiller sur ce qu'on pourrait appeler le moindre, celui qu'on considère comme pas important dans notre société ou selon le regard du monde. Et ce principe biblique, c'est ce principe biblique dont j'aimerais parler ce matin et qu'on retrouve à la fin de l'évangile de Matthieu. Pas à n'importe quelle place d'ailleurs, c'est au chapitre 25, c'est un chapitre où Jésus parle du jugement qui va venir sur le monde, parle de son retour, il parle de l'attitude qu'on a à avoir en tant qu'Église au travers de toutes ces paraboles. Mais le principe biblique dont je vous parle, la vérité biblique dont je veux parler ce matin, elle est dans la dernière parabole qui concerne le jugement sur les nations. Et là, Jésus, dans cette parabole, il parle d'un roi. Ce roi, c'est lui. Un roi qui revient pour juger les nations. Et ces nations sont symbolisées soit par des brebis, soit par des boucs. Et ce roi, Jésus, dit aux brebis, vous allez à ma droite et au bouc, vous vous tenez à ma gauche. Et là, il rend son jugement. Et voilà ce qu'il dit, c'est à partir du verset 34. Puis le roi dira à ceux qui sont à ma droite, donc aux brebis, venez, vous qui avez été bénis par mon Père, recevez votre héritage, le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez invité chez vous. J'avais besoin de vêtements et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous vous êtes occupé de moi. J'étais en prison et vous m'avez rendu visite. Puis ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous invité chez nous, ou quand, ayant besoin de vêtements, t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et t'avons-nous rendu visite? Et le roi leur dira, oui, je vous le dis, quand vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits de ses frères, c'est à moi que vous les avez faites. Puis il parlera aussi à ceux qui sont à sa gauche en disant, allez-vous-en loin de moi, vous qui êtes maudits. Allez dans le feu qui a été préparé pour l'adversaire et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'étais assoiffé et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'avais besoin de vêtements et vous ne m'avez pas vêtu. Quand j'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. Alors eux aussi répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif ou étranger, sans vêtements, malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, oui, Je vous le dis, toutes les fois que vous avez refusé de faire ces choses au plus petit de ces gens, c'est à moi que vous avez refusé de les faire. Ils iront au châtiment éternel, mais ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Et dans cette parole de Dieu, Jésus nous parle de deux attitudes. Une bonne, une mauvaise. Deux attitudes qui conduisent dans deux directions différentes. Une attitude qui conduit dans la direction de la mort, une mort éternelle. Et une attitude qui conduit dans la direction de la vie éternelle. Et Jésus, effectivement, dit que aux nations, et nous sommes issus des nations pour la plupart, Jésus dit, ben voilà, c'est là-dessus que vous serez jugés. Là-dessus que vous serez jugés sur le bien que vous avez fait, vous auriez pu faire aux plus petits d'entre vous, à ceux qu'on exclut, à ceux qu'on peut regarder peut-être d'une manière méprisante. Et pourtant, quand ce principe de vie, il est pas utilisé, mais quand on l'applique dans le monde, on voit des choses merveilleuses se passer. Et dans le monde, on peut le voir. Par exemple, j'ai entendu parler d'un café à Paris où tous les serveurs, ce sont les serveurs et puis les serveuses, ouais. Ce sont en fait des trisomiques. Et ça marche tellement bien, ça fonctionne tellement bien, parce que l'idée du patron, c'est vraiment de montrer toutes les différences qu'il y a dans notre monde. Ça fonctionne tellement bien qu'ils vont faire un deuxième café dans une autre grande ville de France. Je pense aussi aux autistes que l'on voit dans certaines boîtes informatiques maintenant qui commencent à embaucher des autistes parce qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, on se rend compte que l'intelligence des autistes, elle est beaucoup plus proche et ils sont en mesure de comprendre beaucoup mieux ces choses-là. Et donc, du coup, on ne les regarde plus comme des personnes qui sont sans valeur ou dont l'intelligence elle est moins bien que la nôtre. Nous qui sommes dans la norme, entre guillemets, et à les parquer dans des institutions. Alors ça, ce sont de belles choses. Et par exemple, si je prends l'exemple de la Suisse, ben la Suisse, elle a ce principe dans sa constitution qui a été votée en 1999, dans son préambule. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Vous connaissez ça? C'est quoi ça? Ça, c'est un principe biblique. C'est ce principe biblique. Alors, c'est tout honneur à la Suisse de mettre ça dans sa constitution. Mais après, dans quelle mesure on arrive à vivre ce principe, cette vérité dans le monde? Quand justement vous voyez ce qui se passe avec ce trafic humain, avec cet esclavage moderne. Je ne vais pas m'étendre sur cet exemple parce qu'il en sera question le week-end prochain. Mais on pourrait donner d'autres exemples. Moi, souvent, je vois des personnes arriver en burn-out. Et souvent, la question qu'elles ont, c'est bah, « c'est moi qui ai un problème ». Et invariablement, la réponse que j'ai systématiquement à leur donner, c'est « Non, ce n'est pas vous qui avez un problème, c'est le système. » C'est le système dans lequel vous êtes, c'est le système dans lequel on est, qui demande toujours et toujours, toujours plus, qui veut toujours aller toujours plus vers la performance et pour qui il faut être fort, et il faut être tout le temps fort. Et les faibles, on les met de côté. On n'en veut pas. Donc si vous êtes faible, si vous montrez une faiblesse, et le problème... S'il y a un problème de la part de ces personnes, c'est qu'elles n'ont pas su dire non. Mais en fait, elles n'ont pas su dire non parce qu'elles sont respectueuses. Elles respectent leur travail, elles respectent leur supérieur. Voilà ce qu'on est, je crois, la plupart. Donc en fait, c'est le système qui a un problème. Il n'y a pas de place pour le faible. Ça, c'est le monde. Ça, c'est l'esprit du monde. Je voudrais donner un dernier exemple par rapport à l'actualité en France concernant des enfants. Les enfants à partir de 4 ans, on commence à parler d'éducation sexuelle pour des enfants à partir de 4 ans. Je ne sais pas si on se rend compte. Les enfants, ils ne sont pas à un âge où il s'agit de leur parler de ça. Dans leur développement, ça ne respecte pas du tout leur développement. Ça ne respecte pas du tout leur rythme. C'est profondément discutable. Et encore, je suis gentil quand je dis discutable. Ça ne respecte pas les enfants qui sont moindres aussi, là. On ne les considère pas comme importants et ça ne les respecte pas. Et au contraire, on entend des témoignages d'enfants qui reviennent de ces cours et qui sont choqués, en fait. Qui sont choqués parce qu'ils se sont sentis agressés. Parce qu'on a parlé de choses, c'était pas le moment. Dieu sait comment on fonctionne. Dieu sait quel est notre rythme. Mais quand on se coupe de la parole de Dieu, on ne le sait plus et on est dans la confusion. Et on établit des lois qui sont iniques. Et ça, la place pour le plus faible, on peut résumer au travers de tous ces exemples que le monde n'y arrive pas. Le monde n'y arrive pas à appliquer véritablement ce principe de vie, cette vérité biblique. Et le monde n'y arrive pas tout simplement parce que c'est une parole de Dieu. Et pour vivre, appliquer une parole de Dieu, on peut le faire qu'en étant en relation avec Dieu. Le seul moyen d'y arriver, de vivre vraiment cela, c'est de donner toute la place à Jésus-Christ. C'est de donner toute la place à Dieu qui est venu en Jésus-Christ. Qui est-ce qui a su avoir un regard sur les moindres, sur les plus petits? C'est Jésus. Si on lit tout ce qui se passe dans les évangiles, la manière dont Jésus se comportait, l'accueil qu'il avait envers les enfants, l'accueil qu'il avait envers les femmes, qui à ce moment-là étaient méprisées dans cette société dans laquelle il vivait particulièrement, l'accueil qu'il avait envers des personnes qu'on considérait comme des traîtres, et qui, pour trouver du boulot et pour faire vivre leur famille, eux, ils trouvaient un boulot de péager, collecteur d'impôts pour Rome. On voit le regard que Jésus il avait, l'accueil qu'il avait des prostituées, de toutes ces personnes qu'on considérait comme des rebuts, des déchets. Ce regard, on peut l'avoir vraiment si Jésus vient dans notre vie. C'est comme ça qu'on peut avoir ce regard-là. Ce regard, on peut l'avoir vraiment si on laisse Jésus prendre toute la place dans notre vie. Ce regard, Jésus, il l'a parce que lui, dont on a chanté le nom, Dieu qui est grand, il s'est fait le plus petit. Il s'est fait le plus petit. Il s'est fait le plus petit en mourant sur la croix. Il est venu se mettre à la place des petits, des moindres que nous sommes. Parce que nous sommes tous petits, nous sommes tous moindres. Et pourtant d'une si grande valeur, d'une si grande valeur, la valeur de la vie du Fils de Dieu. La valeur de la vie du Fils de Dieu. Tu as la valeur de la vie du Fils de Dieu. Alors, dans quelle mesure son regard, il inspire le mien? Il inspire le mien sur les autres. Parce que, comment moi est-ce que je considère celui qui est en prison? Comment est-ce que je le regarde? Est-ce que je le regarde comme dans le monde, en le réduisant à son acte? S'il a fait ça, il y a sûrement une bonne raison. Comment nous, en tant qu'Église, on a ce regard? On a ce regard sur ceux qu'on considère les plus petits? Je ne sais pas, pour les quelques jeunes qui sont là, il n'y en a pas beaucoup, là. Je vois beaucoup. Bref. Mais vous savez, là, c'est le jeune, là, à l'école, qu'on met, celui dont tout le monde se moque, celui que tout le monde méprise, parce qu'il est différent, parce que je ne sais pas, parce qu'il n'est pas comme les autres, parce que socialement, il est différent, j'en sais rien, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que chrétiens? J'interroge les jeunes chrétiens en particulier. Comment vous vous êtes comportés? Est-ce que vous êtes associé au mépris, aux moqueries, parce qu'on ne veut pas être exclu. ne peut pas être nous à notre tour rejeté des autres. Ou est-ce qu'au contraire, vous n'y êtes pas mêlés? Ou est-ce que même vous êtes allé jusqu'à protéger, défendre la personne? Ça, c'est l'Esprit de Christ. Comment est-ce qu'on considère dans notre Église les aînés, les personnes âgées dans une société où on se demande dans quelle mesure on leur donne de la valeur? Quand on voit, par exemple, dans certains établissements, comment finalement ils peuvent être jusqu'à être maltraités. Est-ce qu'on les considère comme dépassés, de toute façon leur vie a de moins en moins de valeur? Comment est-ce que les plus vieux considèrent les plus jeunes aussi? Les jeunes, de toute façon, ils n'y connaissent rien à la vie. Ils sont pas expérimentés, ils n'ont pas d'expérience. Et pourtant, il y a une telle force de vie dans un jeune, comme dans un moins jeune. Comment est-ce qu'on considère les handicapés, les enfants handicapés? Est-ce qu'on considère finalement... À quoi elle sert cette vie finalement? Nous, avec Estelle, on a un neveu qui est polyhandicapé. Il est lysencéphale, ça veut dire son cerveau, il n'a pas pu se développer. Il a 14 ans, mais c'est comme un bébé de 6 mois à 1 an. Il est dans son lit allongé, il ne peut pas marcher, il ne peut pas parler. Est-ce que c'est une vie inutile? On pourrait se demander, mais à quoi il sert finalement? Puis dans quelle mesure c'est un problème? Parce que son cerveau s'est un peu développé, son système immunitaire fait qu'il chope plein de problèmes respiratoires. Et c'est des galères. C'est des galères pour ses parents. Mais quelle galère! Et on pourrait se dire, mais quel problème! Mais vous verriez cet enfant. Vous le verriez sourire. Vous le verriez rire. Il y a toute la valeur de sa vie là-dedans. Comment est-ce qu'on considère la valeur d'une vie humaine, nous, en tant qu'être humain? Dieu sait quelle est la valeur d'une vie humaine. Il a donné le prix de sa vie. Comment est-ce que je me regarde? Comment est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez comme le moindre dans le sens de quelqu'un de méprisable? Vous n'êtes pas fier de vous, quel regard vous avez sur vous? Vous avez la dignité de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Oui, nous avons des choses, nous avons pu faire des choses qui sont méprisables, mais nous ne sommes pas méprisables. Nous ne le sommes pas. Et si tu te regardes comme ça, tu n'as pas à te regarder comme ça. Tu n'as pas à te juger. Quel regard j'ai sur les autres? Quel regard j'ai sur moi? Quel regard j'ai sur les autres? Je pense aussi à les personnes finalement qui ne veulent pas de l'évangile. Dans cette parabole, Jésus dit j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Des affamés, des assoiffés spirituels, il y en a plein autour de nous. Et ce n'est pas parce qu'ils refusent l'évangile qu'ils n'ont pas faim et qu'ils n'ont pas soif. Ce n'est pas parce qu'ils ne manifestent pas cette faim et cette soif qu'ils n'ont pas faim, qu'ils n'ont pas soif. Ils ont juste obscurci leur cœur. Ils ont mis leur cœur sur des tonnes de choses. Ils ne veulent pas avoir ce besoin-là, qui est un besoin vital. C'est leur vie qui est en jeu. Et comment est-ce que moi je les considère? Est-ce que, de toute façon, ça ne sert à rien, ils ne veulent pas de l'évangile. De toute façon, ici, c'est un terrain dur. C'est quoi les paroles que j'ai? Je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette parabole, mais Jésus dit aux brebis, ce que vous avez fait à ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et quand il parle au bouc, il dit, ce que vous avez fait à ces plus petits. Alors, dans la traduction que je vous ai donnée, c'est à plus petit de ces gens, mais littéralement, c'est à ces plus petits. Il n'y a pas de mes frères. Ça veut dire que quand je considère l'autre, quand j'ai un regard sur lui, quand je m'intéresse à lui, quand je me préoccupe de lui, en particulier le plus faible, le plus pauvre, celui qui est considéré comme le moindre, je lui donne l'opportunité de devenir un frère. Mais si je ne le fais pas, Comment est-ce qu'il peut être touché par l'évangile? Ce principe de vie, cette vérité biblique, elle est là aussi pour que l'évangile puisse toucher des personnes, pour que ceux qui sont considérés comme les moindres puissent rejoindre la famille de Dieu. Et les moindres, nous le sommes tous. Alors comment est-ce que je veux, moi, vivre cette vérité biblique? Dans quelle mesure, dans l'Église, on la vit, cette vérité biblique? Dans quelle mesure, dans ma vie personnelle, je vis cette vérité biblique? J'ai Christ. Ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, nous avons Christ. Et nous avons celui qui peut nous donner ce regard, celui qui peut nous donner ce cœur, cet amour. Pas un amour humain, mais cet amour divin. Parce que vraiment, il ne s'agit pas d'un amour humain. Et je vais terminer cette prédication par ce passage que vous connaissez bien, que nous connaissons bien. C'est 1 Corinthiens 13. Je vais prendre à partir du verset 3. Si j'offrais tout ce que je possède, je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Et cet amour, c'est pas un amour humain. Cet amour, c'est l'amour de Dieu. Cet amour, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Et dans quelle mesure je me laisse remplir de cet amour qu'est Jésus? Alors pour moi-même et puis pour les autres. On va prendre la Sainte Cène maintenant. On va prendre la Sainte Cène parce que qu'est-ce qui se passe dans la Sainte Cène? Qu'est-ce qui se passe dans la Sainte Cène? On vient prendre Jésus en nous. La Sainte Cène, on s'identifie à Jésus. On s'identifie à Jésus et dans son corps, on laisse justement tout ce qui nous empêche de faire attention, de veiller sur ce qu'on ne considère pas comme important ou sur nous-mêmes. Et puis, on vient prendre son amour quand on prend le sang. On vient prendre son amour. On vient prendre qui il est en nous. Nous ne pouvons pas faire mieux que le monde si nous n'avons pas Christ en nous. Alors, pendant qu'on va prendre cette Sainte Cène, après que j'ai prié, je nous invite tous à se mettre devant Dieu et que lui, il nous montre peut-être les personnes qu'on a méprisées pour leur âge, pour leur sexe, pour leur couleur, pour leur niveau social. Pour toutes ces choses qui nous font dire, bah, quelque part, il est moins bien que moi. Tu puisses laisser Dieu te montrer si tu as eu des pensées comme ça envers toi. Si tu t'es mal considéré alors que tu es créé à l'image de Dieu. si c'est parce qu'il y a des choses, voilà, qui pour lesquelles tu n'es pas fier, bah, que tu puisses tout simplement demander pardon à Dieu. Et qu'on puisse laisser le Seigneur nous remplir de lui et nous remplir de son regard, changer notre regard sur nous-mêmes et sur les autres, sur tous ces autres qui sont destinés à devenir des frères, des sœurs. Ben Seigneur, je te remercie pour ce pain et je te remercie pour tout ce ton corps qui a pris tout notre péché et toutes nos souffrances aussi dans tes meurtrissures. Ton corps qui a été blessé par notre péché. Ton corps qui a été blessé par nos souffrances et les souffrances qu'on s'inflige les uns les autres. Je te remercie pour ce corps. Et vraiment, viens prendre, Jésus, montre-nous, Saint-Esprit, viens prendre ce qui n'est pas à ta gloire en nous. Viens le prendre. J'appelle vraiment ton esprit de révélation maintenant. J'appelle ton esprit de révélation sur nos vies. Et je te remercie pour ton sang qui a coulé. Je bénis ce breuvage en ton nom qui représente ton sang. Je te remercie pour ton sang qui est pur. Je te remercie pour ton sang qui est rempli de ton amour et qui vient nous remplir de ton amour par la foi. Amen.